Ma première affectation fut le Congo, qui venait d'obtenir son indépendance. Daniel, André et moi partîmes vivre dans cette capitale qui ne tarderait plus à s'appeler Kinshasa. Me qualifier d'anticolonialiste serait un euphémisme. J'étais enthousiaste au dernier degré de découvrir ce pays enfin libre. L'été 1964, l'ambassadeur de Belgique me nomma consul à Stanleyville. Laissant ma famille dans la capitale, j'y atterris pour prendre mon poste. Le pays était alors en proie à des querelles intestines explosives et une rébellion qui se voulait marxiste couvait dans tout le pays depuis l'indépendance. Le 6 août commença ce qui devait être la plus grande prise d'otages du XXe siècle. Les rebelles s'emparèrent de la ville et les 1500 blancs qui y habitaient devinrent otages. Les nouveaux maîtres de Stanleyville avertirent les autorités de la capitale que, s'ils n'acceptaient pas leurs conditions, les otages seraient exécutés. Leurs exigences étaient simples. Ils voulaient que soit reconnu leur État de l'Est, la République populaire du Congo, avec pour capitale Stanleyville. Il coulait de source qu'ils ne se contenteraient pas de régner à l'Est, mais qu'ils voulaient occuper le pays tout entier. Je parle de cela au passé alors que rien n'est révolu. Nous sommes en novembre, la prise d'otages a commencé début août. J'ai l'impression d'être ici depuis toujours. Très vite, les rebelles regroupèrent les Blancs au Palace Hôtel. Les personnes âgées, les femmes enceintes et les malades purent loger dans des chambres. Tous les autres otages, dont je faisais partie, furent parqués dans le grand hall de l'hôtel, qui devint notre lieu de vie. Chaque matin, les rebelles arrivaient avec des fusils d'assaut en déclarant « Votre gouvernement ne nous a toujours pas reconnus. On va tous vous tuer. » Chaque matin, je me proposais comme interlocuteur. C'est un projet intéressant, mais en tant que consul de Belgique, je suggère que nous commencions par parler. Il s'agissait alors pour moi de m'asseoir en cercle avec leur chef et de parler jusqu'à la nuit. La survie de 1500 otages dépendait non pas de mon éloquence, mais de mon aptitude à participer à de formidables palabres. Je devins capable, puisqu'il le fallait, de parler pendant des heures avec la dernière véhémence, de les assurer de notre sympathie, de notre probable reconnaissance dès que nous aurions en main leurs revendications. Peu importait que je raconte des aberrations. Ce qu'il fallait, c'était tenir des propos convaincants. Les répétitions étaient bienvenues, il fallait enfoncer le clou. Parmi les motifs de colère des rebelles, il y avait le refus d'obtempérer du gouvernement de la capitale. Chaque jour, je devais signifier non seulement mon indignation à l'égard de cet état de choses, mais aussi mon impuissance à le changer. À quoi les rebelles répondaient immanquablement que si la Belgique reconnaissait leur gouvernement, la capitale suivrait. Raisonnement que je récusais en signalant que le colonialisme n'avait plus cours, que la Belgique avait perdu et que je m'en réjouissais. Il ne fallait jamais laisser le silence s'installer durant les palabres. Si je me taisais, et si les autres se taisaient aussi, le démon de la gâchette se réveillait presque aussitôt. D'un naturel plutôt taciturne, j'appris à devenir un moulin à paroles. J'étais le nouveau Scheherazade. De mon aptitude à parler dépendait la vie de mes compatriotes. Bien sûr, il ne fallait pas dire n'importe quoi, les rebelles m'écoutaient vraiment. Mais en cas de panne sèche, la sagesse consistait à reprendre mon discours de zéro. Et si l'un des rebelles m'interrompait alors en disant
« Vous avez déjà dit ça ?»
Il fallait répondre « C'est pour les nouveaux arrivants !» Car le cercle des palabres ne cessait de s'élargir.